Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast 100% catch qui résume et analyse chaque semaine les shows de la WWE. Je suis IRM et je suis accompagné ce soir en direct sur les ondes. Il est 21h14 de l'ami Ringside. Salut Ringside.
Salut IRM, salut à tous.
Bon. Après ce gros week-end de catch, où nous avons déjà analysé un NXT TakeOver avec l'ami Amiral, ce soir nous allons analyser le pay-per-view le plus chaud de l'été, le plus chaud de l'année même, SummerSlam, 6 heures de catch à se bouffer, et ouais, 2 heures de pré-show, plus 4 heures de carte principale. Déjà toi, Ringside, comment tu l'as regardé en fait? Dans quelles conditions tu t'étais mis?
J'ai regardé jusque Big Cass en direct.
Ah oui, courageux.
En et vacances. Après, pas en vacances, non. Mais courageux. En démarrant tard le lendemain matin, et après j'ai dû faire en deux fois, je crois. Voilà, c'était. Je pense pas que c'était faisable de le faire en entier, à moins d'être vraiment dans des conditions très très favorables.
Oui. Moi, je t'avoue que moi, il y a une époque où je vivais un petit peu en décalé, hein, quand j'étais, je vivais encore chez mes parents. Je vivais la nuit et dormais le jour. Où là, j'aurais pu faire ça, mais à l'époque, je ne regardais pas encore le catch. Eh oui. Donc, voilà, j'avais d'autres vices.
Puis c'était pas diffusé comme ça, hein, en direct la nuit. Hein.
Non, c'est vrai. Tu as raison. C'était là, on a vraiment la technique, la diffusion mondiale. Hein, les frontières tombent. Voilà. D'ailleurs, petite dédicace avec Ajus et Chéreau qui étaient la cabine des commentateurs. Hein, ils n'étaient pas ringside, mais ils étaient à la cabine des commentateurs. Pour autant, sur le network, ce sont toujours nos amis québécois qui s'occupent de la version française. C'est bien dommage, mais évidemment, il y a des questions de droit qui passent par là. Un jour, peut-être. Qui sait?
D'ailleurs, ils sont fait annoncer comme étant Jean Brassard et Raymond Rougeau.
Arrête.
Par les commentateurs, si.
Ah, les cons. Ah, ils ont botché. Ah,
bah, ouais, un petit botch de Michael Cole. Ils
J'allais dire Ajus et Chéreau dans un épisode de Botchamania.
Ouais, c'est... Bah, ils y seront à mon avis. Hein.
ce serait pas mal. Bon, alors, on a plein de choses. Hein. Y avait 13 matchs à la carte, 3 dans le pré-show. On avait fait les petits pronos, souvenez-vous, les petits pronos de la team rouge contre la team bleue. Donc, on vous donnera en même temps les résultats et on découvrira ensemble, parce que je n'ai pas fait le décompte final, qui de la team rouge composée de Ringside et de Raphaël, ou de la team bleue composée de l'ami Giscal, qui n'est pas là ce soir. Il a presque failli, mais dit-il, il a trop de boulot. Voilà, on va le croire. on essaie de mettre en place une relation de confiance dans cette équipe. Donc, on va pas la ternir ce soir. Donc ouais, les pronos au fur et à mesure. Écoute, je te propose qu'on y aille. Ça avait lieu donc à Brooklyn, à New York, au Barclays Center. Le premier match opposait le mistourage à la team Hardy et Jordan dans une salle quasiment vide, hein, puisqu'il y a eu un petit souci. À la fois, ça commençait, je pense, un peu trop tôt pour les gens, et il y a eu des petits soucis pour faire rentrer aussi, je pense, les gens, gérer le flux. C'était un petit peu étrange de suivre ce match. Écoute, c'est parti pour le résumé. On a une belle cohésion, hein, de circonstances entre Jason Jordan et les frangins Hardy, qui leur permet de prendre un contrôle du match au début, particulièrement quand Bo Dallas et Curtis Axel, hein, sont entre les cordes. Évidemment, ils servent un petit peu de chair à canon. La tendance s'inverse, hein, quand le mistourage s'acharne sur le genou fragile de Jeff et que Miz, hein, s'occupe personnellement de Matt. Jason Jordan qui prend son rôle, hein, fonction, hein, de hot tag à cœur, hein, c'est lui qui fait le hot tag. Il embarque les quelques 60 personnes du public à ce moment-là avec lui. Mais bon, il se fait avoir comme un bleu, on va dire, par un blind tag du Miz qui lui place son skull crushing finally pour le compte de 3. Donc le bâtard, hein, de Kurt Angle qui se mange une défaite à son premier pay-per-view. Moi je dis bravo champion.
C'est lent.
Qu'as-tu pensé cette petite mise en bouche là, c'est même pas un apéro là, hein, c'est...
Ouais, non, là c'était un amuse-gueule, mais voilà, premier prix, on va dire. Ah, il y avait quand même, il y avait du star power, hein. On avait le Miz, on avait son mistourage, la belle Maryse, les Hardy étaient là, la nouvelle sensation de Jason Jordan. Ouais, non, bah, ce qui a choqué le plus, c'est le fait qu'il n'y avait personne dans le public. Le match, c'était un match très très anecdotique au final. Pareil qu'ils étaient furieux, les athlètes, d'avoir dû performer devant si peu de personnes. Apparemment, ils ont ouvert les portes quand le show démarrait, quoi. Hein, donc.
Bah on voyait en fait, il y avait des caméras qui filmaient l'extérieur, les alentours hein,
Ouais.
du stade, et on voyait vraiment par moments des gens donc, qui étaient agglutinés, et tout d'un coup, des portes qui s'ouvraient, et les gens qui couraient avec leur billet à la main. Donc clairement, c'était pas qu'un problème de gens qui arrivaient en retard, c'était vraiment un problème de gestion des flux.
Ouais.
C'est très dommage. Je pense que vu les prix des billets, surtout les gens qui étaient au premier rang, tu payes ça des centaines, voire des milliers de dollars. Il y a dû avoir un peu des gens un peu tristes. Mais bon, ça s'est un petit peu rétabli au fur et à mesure du kick-off. Et
Ouais.
la petite défaite là de Jason Jordan.
Pas Jason Jordan, ouais, ça marche pas. Alors, je sais pas comment ils vont réussir à le faire continuer à essayer de pourchasser le titre intercontinental vu qu'il vient de se faire battre par le champion. Mais bon, c'est dans un match 3 contre 3. C'était un blind tag. Il a quand même des excuses. Donc, voilà, théoriquement, ça peut fonctionner au niveau narratif. Mais c'est sûr qu'on est un peu en galère avec ce Jason Jordan. Et ça, on l'avait prévu, ça se concrétise, et puis on a voilà un petit exemple là à ce SummerSlam.
Ouais. Moi, je noterais juste à la fin un Miz qui célèbre sa victoire en allant taunter le seul mec qui était justement dans le ringside en fait, et qui est en fait le mec qui est ch en charge de gérer donc le community manager de la WWE.
Ouais.
Bon, pour le match suivant, le public a commencé à rentrer, il y avait déjà un peu plus de monde puisqu'il s'est opposé Neville, le roi Neville, à Tozawa. Ah bah juste pour la petite info, nous avions pronostiqué la
Ah oui.
victoire du non, de Hardys et Jordan. Vous n'avez rien pronostiqué du tout, je crois, parce que le match n'avait pas été annoncé à ce moment-là. Donc bah, ça fait 0 points pour tout le monde. Voilà, comme ça,
Voilà,
les
allez.
compteurs sont toujours à 0. Neville Tozawa, donc Tozawa hein, qui arrive en champion. Le match qui commence avec Neville qui est tout de blanc vêtu, immaculé,
Ouais.
magnifique,
Magnifique
et
costume.
rapidement éjecté du ring hein, par le hurlant Tozawa. Moi, j'avais jamais vraiment vu un match de Tozawa en entier. C'est vrai qu'il crie beaucoup, le garçon. Hein. Décidé à invalider sa victoire inattendue hein, de la semaine dernière, mais le roi qui a bien ruminé hein, ces derniers jours, on se souvient de la gueule qu'il tirait à NXT TakeOver, pas content.
Excellent.
Il n'entend pas de cette oreille hein, qu'il a fort grande hein, évidemment. Il envoie le japonais dans le tablier du ring et annule hein, toute tentative de cabriole. Le protégé de Titus finit par s'extirper du roi déchu qu'il empale magnifiquement d'un suicide dive. Il a fait un suicide dive, il est resté à l'horizontale sur 5 mètres, hein, je pense, le japonais. Distribue ensuite hein, ses violents coups de pied. Hein. Il tente une délicate prise de soumission. C'était un peu difficile là, à placer sa prise de soumission. D'ailleurs, ça ne donnera rien. Et sa sentence finale réclamée par Titus. Il y a Titus qui l'encourage à porter son finish. Malheureusement, son finish qui rencontre hein, les genoux de Neville, qui enchaîne avec sa Red Arrow, qui ne sortait plus vraiment hein, en tant que heel. Là, il a ressorti pour la victoire. La ceinture couleur lilas retourne autour des hanches du vrai champion. Ringside, on oublie tout. Tout est
On oublie tout.
pardonné. Tout est
Tout est
pardonné.
pardonné. Mais non, rien n'est pardonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi avoir fait perdre à Neville la semaine dernière pour leur faire gagner maintenant? Ça n'a aucun sens. Le match, c'est le copier-coller de match qu'il y a eu à Raw. Ils ont interverti le finish parce que sur le dernier, c'était Neville qui loupait son Red Arrow et qui se prenait la Swanton. Là, c'est l'inverse. Ils aiment bien faire ça, apparemment, chez les Cruisers. Bien faire du back wrestling, un dive et on fait des finishes qui se répètent, qui se répondent d'une semaine à l'autre. Bon, c'était quand même propre hein, au niveau du match, un bon 3 étoiles, mais ils peuvent faire nettement mieux. Ils peuvent faire nettement mieux. Et puis voilà, quel a été l'intérêt de faire perdre Neville pendant 3 jours pour lui faire récupérer son titre. En tout cas, il y a une chose qui est bien, c'est qu'il y avait une rumeur qui tournait sur le fait que Neville voulait des vacances. C'est pour ça qu'il lui avait fait perdre la ceinture. Bah, c'était visiblement bien de la merde, hein, cette
Alors,
rumeur.
de toute façon, toutes les rumeurs de vacances, faut pas y croire, hein. Souvenez-vous,
C'est clair.
Charlotte qui devait partir en vacances tous les 2 mois, à chaque fois, elle a remporté le match. Je pense même que c'est un indice pour justement bien pronostiquer. Bah, pronostique que tu as eu bon ringside, puisque tu es le seul d'entre nous à avoir vu venir la victoire du roi Neville.
Voilà.
Voilà, j'avais personnellement, j'ai pronostiqué le Roi Neuville sur tous les sites de pronostics, sauf sur Catchup, parce que Giscal m'a fait changer d'avis.
Ouais.
Donc
Et
voilà.
je crois bien que moi, j'ai misé Tozawa aussi sur les sites
Ah
de
merde,
pronos.
n'importe quoi.
Voilà, la loose.
N'importe quoi, la grosse loose. Bah écoute, je te rejoins sur ce que t'as dit, hein. Je trouve ça effectivement assez dommage. Bon après, voilà, maintenant, il y a plus qu'à au moins tirer quelque chose d'un point de vue storyline, hein, à la fois pour Tozawa et pour Neville. Le point positif que moi je trouve, c'est que vraiment Neville, il a joué le kefab jusqu'au bout pendant toutes ses apparitions qu'il a eues sans la ceinture. La
Ouais.
gueule qui tirait à TakeOver, c'était fantastique, et du coup ça montrait vraiment qu'il était totalement investi par son personnage et qu'il revoulait sa ceinture, quoi. Donc ça, je pense que malgré tout, ça peut lui servir à rajouter encore plus de charisme à ce personnage qui en déborde déjà de façon totalement. Donc voilà.
C'est
Est-ce
ça.
que
Et
c'était... Oui.
il faut trouver un opposant maintenant à
C'est
Neville. Il
ça.
faut qu'il trouve un mec qui soit aussi talentueux que lui, qui sache construire un personnage comme il l'a construit pour avoir cette opposition qui pourra voilà faire un peu bien partir cette division Cruiserweight qui est quand même hormis c'est la division Neville en fait hein, finalement.
Oui, malheureusement, la division Neville. Est-ce que c'est la division New Day ou est-ce que ça va être la division Uso? Nous le saurons dès maintenant, puisque il y avait donc un match qui aurait peut-être dû ne pas être en kick-off. C'est celui pour la ceinture par équipe de SmackDown, avec les New Day hein, qui retrouvent Brooklyn, un lieu chargé d'histoire pour le trio Fantasque. Excité hein, d'ailleurs par ça, c'est Xavier Woods hein, qui entame la rencontre en quatrième vitesse. Il balance des athémis, ça trash talk, il fait un peu d'effeuillage sur un des jumeaux d'ailleurs, il le fout à poil assez rapidement. Mais une monumentale, un gifle remet les pendules de Xavier à l'heure, qui va subir alors les assauts répétés des jumeaux avant que Biggie puisse enfin faire le hot tag. L'ancien champion NXT nettoie le ring, appuyé par les kicks de son partenaire. C'est fluide, hein, c'est vraiment, il y a un travail là de teamwork, comme on le dit, qui est fabuleux du début jusqu'à la fin. À un moment, il y a une séquence, une double séquence fantastique où ils s'utilisent mutuellement à tour de rôle comme arme, puisque Biggie utilise Xavier Woods en tant que powerbomb, et après Xavier Woods prend Biggie sur ses épaules pour le lancer, le renverser sur son opposant, parce qu'il fait son...
Sacrée séquence, hein.
Ouais, parce qu'il doit, il fait son bon quintal et demi, je pense, le Biggie, donc bravo Monsieur Woods. Ça va à la salle, hein, tout ça, hein. Il y a l'abonnement à la salle de gym. Hein. On continue. Puisque l'ancien, oui, voilà, c'est ça, un double spinbuster des Samoans éteint l'incendie hein, qui venait d'être mis là par les New Day. L'étincelle Woods remet le feu au match qui s'emballe hein, ra rapidement. Backstabber, Woods et les Ouzo s'échangent des frappes dans les cordes. Enfin, un des frères Ouzo s'échange des grosses frappes dans les cordes à la tour de rôle. Biggie vient s'empaler justement dans les cordes avec un suicide dive. Bon, il était pas très bien parti de toute façon, donc tant mieux, il se fait avorter parce qu'en se faisant en plus derrière, il se fait guillotiner le cul par un des Ouzo qui saute à l'extérieur alors qu'il était toujours suspendu après une des cordes. Xavier Woods qui tente l'exploit, hein, il place tous les soumissions, il coups de genoux, DDT à l'extérieur, il est chiant Xavier Woods depuis plusieurs semaines. Le New Day qui arme alors une prise qui s'appelle le Up Up Down Down, si j'ai bien compris.
J'ai l'impression qu'ils l'ont nommé
Voilà,
comme
donc
ça, ouais.
voilà, hein, le nom de la chaîne YouTube de l'ami Wood, qui touche sa cible, hein, mais le tombé est cassé par un des frangins que j'ai nommé Jimmy, mais sans en être sûr. Les chants au somme s'élèvent à ce moment-là. Je crois que c'est très rare, hein, des chants au somme dans un match de kick-off.
Ouais.
Là, on les a eus, ils étaient mérités. Xavier Woods qui se fait éjecter du ring avant d'être pris dans un Samoan drop à l'extérieur, hein, c'est-à-dire qu'il se fait éjecter par un des frangins Ouzo par-dessus la troisième corde, et il se fait récupérer en Samoan drop par l'autre frangin. La première fois que j'ai vu ça, moi, j'avais pas très bien compris, mais le ralenti, voilà, c'était une prise hyper risquée qui est plutôt réussie finalement.
Un très bon selling de Xavier Woods derrière.
Ah oui. D'ailleurs, Biggie qui voit que ça s'affole à l'extérieur, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il retente le suicide dive. Il dit, il n'y a pas de raison, mais il se fait ensuite pilonner par les frangins. Qui à coup de pied dans la tronche, là, il se fait décapiter. Et la séquence s'achève sur le alors le double saut du turnbuckle, hein, double splash. Et nouveau champion, les Ouzo, 1, 2, 3, victoire pour les frangins. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et du coup bah, de la ceinture qui retourne chez les frangins là?
Beaucoup de bien. Ouais, c'est un peu la patate chaude cette ceinture tag team, mais en même temps, le New Day, ils n'allaient pas nous refaire un règne de 600 jours là, comme ils ont déjà fait. Non, ça, alors, c'est quoi la 10e fois, la 15e fois qu'ils s'affrontent à peu près? Je trouvais que ça démarrait un petit peu mollement. Je me suis dit, ils sont dans le kick-off, ils sont peut-être démotivés, ils vont pas nous sortir grand-chose. Mais alors après, ça s'est emballé. Le final, il était magnifique. Encore une fois, des near-falls là, où on est obligé de sauter du siège là parce que on dit, ça va passer, ça y est, ils vont perdre et tout. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et les enchaînements finaux, c'était original. Il y avait des choses qu'on n'avait jamais vues, hein, comme ce Samoan Drop là à l'extérieur.
Incroyable.
Même phénoménal. L'enchaînement de super kick là dans la face de Biggie, c'est aussi une manière de faire qu'on voit rarement dans un match tag team comme ça. Et non, c'était vraiment la fin, c'est parti, c'était un spectacle magnifique. Moi, j'étais subjugué. Je mets une très bonne note à ce match.
Ouais, moi je te rejoins complètement. C'est vrai que on a vraiment c'est ce qui fait vraiment l'essence, ou qui doit en tout cas faire l'essence même de cette division tag team. C'est ce genre de match où ça va à 100 à l'heure parce que bah, les mecs ils s'épaulent, enfin ils s'enchaînent, c'est fluide, ça tag dans tous les sens, il y a de la stratégie. C'est ni la première ni la dernière fois on dit qu'effectivement ce match est une des meilleures réponses que le main roster peut faire à. Bah NXT, hein, parce que voilà, on fait souvent les louanges de la division tag team à NXT, mais clairement là avec ce genre de match là, on est sur le même, sur quasiment la même qualité. Donc effectivement un excellent moyen de conclure hein, ce kick-off. Entre temps c'est bon, tout le monde a eu sa place, tout le monde est assis dans son siège. La carte principale peut enfin commencer, et quoi de mieux, au passage personne n'a eu de points sur ce prono, au passage. Ah voilà. Quoi de mieux pour chauffer la salle que de lancer le theme song du Marine de Big John. C'est Big John qui ouvre la balle pour son affrontement face au Baron, le Baron qui a perdu sa mallette. C'était très drôle d'ailleurs d'entendre Raphaël avouer qu'il n'avait pas vu le SmackDown au moment des pronos, et toi qui essayes de dire bon ça va être compliqué de pronostiquer, et on a bien vu puisqu'effectivement il vous a fait perdre un point du coup.
Dommage.
John Cena du coup qui n'avait pas l'air très décidé à prendre le Baron au sérieux hein, pour ce match là, il file rapidement hors du ring, hein, il enfile le chapeau de JBL, ouais, voilà, il se moque hein, du Baron. Les chants Let's go Cena, Cena sucks retentissent. John Cena a ces mots très durs hein, pour le Baron, en lui disant il ne pense même pas à toi. Je pense qu'il y a une part de vérité. Je pense que John Cena pense vraiment ça, parce que c'était il l'a dit enfin il l'a dit pas très fort en fait, tu vois ce que je veux dire. Il s'adressait personnellement à lui. Bref, le Baron est hors de lui, il y a de quoi, hein. Il distribue les grosses mandales, hein. C'est lui qui prend vraiment le match en main au début, il place sa grosse clothesline, il trash talk le public, hein, comme il sait si bien le faire. Le public qui lui rappelle qu'il n'a plus la mallette, hein. John Cena entame un peu plus tard sa séquence des Five Moves of Doom, mais se mange un shock slam backbreaker incroyable là, où il retombe sur le genou du Baron. On a un End of Days également un peu plus tard. Entre les deux, on a eu un tornado DDT du Marine qui se réveille un petit peu. Le Baron qui retire son débardeur sans aucune raison. L'affreux spectacle de son petit bide s'offre à nous. Il tente une troisième clothesline. Vous savez, hein, cette inside out, la clothesline où il sort et il revient. C'est la troisième, les deux premières sont passées, la troisième ne passera pas. Il se fait cueillir, enfin il se mange une clothesline et il se fait cueillir par le Attitude Adjustment. Et contrairement à 80% du roster à l'heure actuelle, le Baron ne s'en relèvera pas de ce premier Attitude Adjustment. Le loup solitaire aura tout perdu ce soir, la mallette, sa dignité, son push. Son push, et John Cena aura même le temps de faire un petit selfie avec ses copains du premier rang. Pas de passage à tabac, rien, que dalle, une victoire clean, une défaite très dure pour le Baron. Ringside, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça?
Enterrement en grande pompe
Oui.
pour Baron Corbin, je crois que
Voilà, une
c'est
petite gerbe de
une
fleurs
petite gerbe
de la
de
part de
fleurs.
Ketchup.
Ouais, bah là, ça concrétise ce qui s'est passé avec la manette. Et on était vraiment dans un match John Cena, mais alors vraiment petit pied, le John Cena de gala, hein, qui est un peu en difficulté. Puis à la fin, il claque son attitude adjustment et puis c'est fini. Moi, j'ai cligné de l'œil, j'ai pas vu le finish, quoi. Hein. J'ai vu que Baron était par terre, ça a fait le tomber, c'était fini.
Ouais.
En même temps, voilà, bah, je crois qu'ils ont parié relativement sur le Baron. Peut-être un peu trop vite, peut-être. Je pense que lui, il a quand même fait ce qu'il fallait, mais il manque quand même un in-ring un peu plus percutant et des promos aussi un peu plus percutantes. Il est un petit peu plat, donc visiblement ils ont perdu la foi en lui. Donc voilà, ils se sont retrouvés avec ce match d'ouverture où il se fait laminer par John Cena. Voilà, je pense qu'il va nous faire une petite carrière à la Ryback, comme c'est parti. Il aura peut-être un push dans un an, mais
Ouais.
il se susurre qu'il y a eu des problèmes aussi au niveau de la wellness policy,
Ah.
qui pourrait lui coûter gros, hein, parce que quand on a eu un push comme ça et qu'on se fait toper, généralement c'est pas bon.
Bah ça, je veux bien, je plus facilement croire à ce genre de soucis qui effectivement sont, enfin, la sentence tombe assez rapidement dans ces cas-là, que toutes les histoires un peu backstage ou de gestion sur, enfin, des voilà, de tweets, je sais pas quoi.
Ouais, ça me paraît
Ils le font tous,
un peu ledge, hein.
enfin, clairement, ils ont mis des billes. Quand tu mets la mallette entre les mains d'un catcheur, peu importe ce que tu as prévu pour lui, c'est que tu te donnes un an pour le tester, quoi. On va dire. Sur un jeune comme ça, tu te donnes un an pour le tester et voir ce que ça peut donner. Là, clairement, ils ont coupé net le truc et ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait de façon sans hésitation, quoi. Il y a pas de, il y a l'espèce à aucun doute sur le traitement qui a l'air de se profiler pour le baron. Bah écoute, ouais, bah comme tu le sais, hein, nous au supplément SmackDown, on aime beaucoup le baron. Moi, je suis vraiment, je suis emmerdé, quoi, parce que pour moi, c'était un super perso qui n'avait pas forcément besoin d'aller toucher une ceinture, mais qui apportait vraiment un, c'était un vrai heel un peu à l'ancienne, mais qui en plus hein, fonctionnait très bien avec le public. Et qui avait des programmes sympas avec les petits catcheurs, les catcheurs indés, etc. Enfin, clairement, il y avait des oppositions intéressantes à faire. Et là, clairement, l'avoir mis entre les mains de Big John, qui est en fait totalement l'opposé de ce sur quoi son personnage a été construit, en fait. Il n'est pas fait pour affronter
Ouais.
des mecs comme John Cena. Donc,
Puis il pouvait que se casser les dents.
bah ouais.
À moins qu'ils aient décidé de le pusher vraiment à mort, où il enterre Cena et c'est la relève de Cena, mais c'est pas du tout ça, le baron. Donc
Bah non.
voilà, ça se termine
Il était condamné.
sur une... Il était condamné.
Condamné
Ouais,
à
ouais,
mort,
ouais,
donc
ouais. En
bah.
plus, ils lui ont mis dans les pattes Nakamura à Battleground. Ils ont fait un match qui était exécrable. Donc si ça se trouve, ils payent aussi les pots cassés un peu des retours de Battleground.
Ah ouais.
Et voilà, il prend un peu pour tout le monde. Donc c'est sûr que c'est décevant parce que. Voilà, on était. Moi, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il n'y a pas un in-ring phénoménal, il y a des choses à voir, mais c'est quand même un mec qui a assuré à chaque fois qu'on lui a donné l'occasion quasiment. Et autant travailler un personnage pour voilà, le faire disparaître comme ça. Enfin, je pense qu'il va être mis sur la touche pendant un moment. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est triste.
C'est triste, voilà, nous sommes tristes, nous sommes, bah voilà, un enterrement c'est triste, hein, donc
C'est ça.
faut pas rigoler avec ces choses-là. Et pour la petite info, 2 points pour nous et 1 point seulement pour vous. L'un d'entre vous avait voté visiblement pour le baron. Bah c'était l'ami Raphaël, hein, je pense, qui a dû vous, voilà, vous la mettre. Écoute, on enchaîne avec un autre match qui n'a pas été facile à pronostiquer, au résultat très surprenant. Puisque Natalia affrontait Naomi pour le titre féminin de SmackDown. Écoute, je vais faire un petit résumé, même si le match était plutôt bon. Naomi a plutôt sorti. Les deux ont sorti plutôt un bon jeu. Natalia a sorti vraiment un catch assez old school, à base de soumission et de gros coups dans la tronche. Et Naomi a sorti aussi pas mal de belles prises. Il y avait pas mal de gros kicks qui étaient assez sympas à voir. Mais Natalia a placé hein, sa proie une première fois dans le sharpshooter, qui était brisée d'une pirouette, puis une seconde fois. Et au final, la douleur est trop forte. La brave et courageuse Naomi abandonne au milieu du ring. Natalia devient donc championne 6 ans après son dernier titre, je crois. En tout cas, ça faisait un bon bout de temps qu'elle n'avait pas touché de ceinture. Tu l'avais vu venir, visiblement. Qu'as-tu pensé de ce match?
C'était moins catastrophique que j'aurais pensé. Natalia, elle a quand même beaucoup de talent. Hein, au final, même si on en a un peu plus rien à foutre
C'est
de
ça.
Natalia, elle est toujours stressante quand elle fait son truc là. Bon, c'est fait exprès, mais c'est
Ouais.
relou quand même. Ça fonctionne un peu trop bien.
C'est ça.
Et Naomi, elle fait des prises originales, elle fait des trucs spectaculaires, mais il y a un petit problème de selling et de fluidité des enchaînements dans ces matchs. Donc il y a des gros spots comme ça qui sont impressionnants, c'est plutôt pas mal. Mais après, dans le reste, dans les trucs un petit peu, je dirais, classiques, un petit peu école du catch, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais non, c'était pas. Alors par contre, ce que j'ai pas compris. C'est pourquoi elle est restée dans le ring à la fin, Naomi a chialé comme ça. Pourquoi elle n'est pas partie du ring? Quel était le but?
Un
Tu as perdu, tu dégages.
instant d'émotion, communion avec le public, je sais pas,
Ah non,
ils ont
c'était.
estimé que le public était suffisamment attaché à Naomi pour avoir besoin de ce genre de séquence qui, effectivement, doit être réservée aux chouchous, quoi,
Pas Naomi.
pas à
Bon,
Naomi,
bah.
qui nous a un peu mis à travers la gorge, finalement, parce que même toute cette histoire de titre repris en Floride, c'était tellement artificiel que bah ça s'est vu après en fait. Hein. On a eu un règne quand même hyper long. Elle a le règne le plus long de ce titre. Hein, je
Elle
crois
a jamais défendu.
quasiment 200 jours. Elle a défendu un pay-per-view sur deux. Elle a fait preuve de. Enfin, elle a été nulle au micro, nulle dans le ring. Après, de toute façon, toute la division n'a pas été à la hauteur. Mais voilà, et c'est vrai que bah finalement la leçon à retenir c'est que bah on va remettre la ceinture autour des hanches d'une vétéran pour voilà repasser à un autre type de programme et quand bien même effectivement j'y croyais pas trop en fait c'est je pense une très bonne idée de le mettre autour de Natalia c'est la moins pire idée qu'il pouvait avoir avec enfin Non, ils auraient pu avoir des centaines de meilleures idées, mais bon, ça fera l'affaire le temps de construire vraiment
Ouais.
un babyface quoi qui irait
Moi,
la chercher.
tu vois, tant qu'à faire, j'aurais préféré qu'il laisse la ceinture à Naomi pour continuer à aller jusqu'au bout du truc, parce que là, ils ont construit un début de truc, mais ça, voilà, ça se termine comme ça sur une défaite où elle abandonne. C'est encore une fois une babyface, top babyface favorite
Ah
du
oui.
public qui
Ça, d'accord.
abandonne. Comme d'habitude,
Ça, c'est de la merde.
et ça c'est de la merde. Il faut qu'ils arrêtent vraiment avec ça. Et du coup, voilà, tu as l'impression d'avoir été derrière ta championne pour rien, quoi, puisqu'elle se fait battre à la première fois qu'elle a une vraie défense de titre
Oui.
contre une vétéran et elle perd clean. Donc, c'est un peu, c'est encore une fois, c'est pas comme ça que tu crées
Non,
des stars.
non. Mais de toute façon, toutes les cases pour construire une top babyface ont été cochées à côté, en fait, dès le départ. Donc, elle a été construite, je te le dis, de façon très factice, en disant voilà, elle aura son titre, enfin, elle a dû le rendre. On lui a retiré son titre. Mais enfin, les gens étaient, enfin, t'étais pas vraiment touché par ça en fait, toi. Surtout que derrière qu'il a récupéré Alexa Bliss, qui est la vraie chouchou du public à ce moment-là. Donc voilà, ça n'aidait pas trop. Et après, elle l'a récupéré parce que elle était chez elle, quoi. Et derrière, ils n'ont pas été foutus en 4-5 mois de construire vraiment ce top babyface. Du coup, bah voilà, effectivement, elle perd la ceinture, et en plus, tu le dis en abandonnant. C'est, ils le font trop souvent, hein, les faire abandonner les
Ça,
babyface.
c'est faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça, hein,
Bon, écoute, on va passer à quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. Non, je déconne, puisqu'il s'agit de Big Cass versus Big Show.
Ah merde, tu m'as eu. Plus qu'on allait parler du nouveau costume de Carmella.
Oui,
Mais
effectivement, Carmella qui du coup hein, bah, n'aura pas caché, on l'aura vu juste
non.
un petit peu avec son costume de Too You To Too là.
J'aime beaucoup.
Ah oui, moi aussi. Mais bon, voilà.
Allez,
Malheureusement,
allons, Big Cass
voilà,
et l'autre corps.
Qu'on aime un peu moins. Enzo, évidemment, est là. Mr. Brooklyn qui parvient à quand même à endormir le Barclays Center avec son monologue là qui a duré des plombes. Les gens, enfin, ça marche plus quoi, vraiment,
Et c'est
hein,
trop
la
long,
formule.
c'est trop
Mais oui, mais on leur a dit 4 heures, donc les gars,
long.
4 heures dont un quart d'heure de Enzo Amore quoi. Donc, évidemment que c'est trop long. En plus, bah, le temps de l'enfermer dans la cage à requins, on lui confisque son micro, ce qui ne l'empêchera évidemment pas de nous pourrir les oreilles pendant tout le match, hein, en trash-talkant Big Cass, hein, pendant
Bon, ça, c'était pas
tout
mal, je
l'affrontement.
trouve.
C'était pas mal, mais en
Qu'il
fait,
blablate comme ça.
je l'ai regardé 2 fois ce match. Une première fois entre amis voilà, de bonne composition, du coup, on faisait pas trop attention, et je l'ai réécouté une deuxième fois, mais avec le casque, et putain, bah, on l'entendait bien. Hein. Oui. En tout cas, de toute façon, ils vont jusqu'au bout du truc, mais c'était original. Son ancien partenaire hein, qui a fort à faire avec le gros chauve, hein, qui même s'il a la main droite brisée, hein, souvenez-vous, il parvient à placer son fameux big punch. Comment ça s'appelle déjà son power punch? Le gros coup de poing là qui casse tout.
Ça va me revenir, je l'ai plus en tête, mais je te le
Disons
dirai quand je suis sur le train de moi.
le big
Le big punch.
punch, mais c'est insuffisant pour
KO
coucher.
punch, KO punch,
Le
non?
KO punch, c'est insuffisant puisque il n'a pas toute la force n'est pas à ce moment-là puisqu'elle est
Ouais,
brisée hein, sa main.
il a mal à
Il a
sa
mal à la
main.
main, il a son bandage. Cass donc se relève. L'attention se recentre alors sur Enzo qui extirpe de son caleçon de l'huile avec laquelle il recouvre son corps entier, lui permettant ainsi de glisser entre les barreaux. Voilà, hein, c'est comme quand tu coinces ta tête entre les barreaux sur le balcon et que les pompiers viennent.
Voilà.
C'est soit ça, soit la scie sauteuse pour te faire sortir, voilà, pour t'extirper des barreaux. Il atterrit mollement sur le ring et se fait évidemment cueillir par la Big Book de Cass, qui en offre une autre à Big Show. Empire Elbow, 1, 2, 3, victoire du gros Cassidy sur le gros spectacle dans une grosse indifférence.
Alors, Big Cass, c'est l'inverse du Baron. Hein. Tout lui réussit, mais malheureusement, il est encore 3 fois plus nul, quoi. C'était zéro, hein. Moins un au niveau du catch. Alors, il y avait une rumeur qui courait comme quoi Enzo, il avait le vertige, mais pas du tout. Hein.
Il
Donc,
avait
c'était
l'air
même pas
très
un
bien, hein.
calvé. Il avait l'air très bien, très à son aise. C'était encore de la merde, ces rumeurs. C'était zéro pointé. Big Cass, il est nul. Hein, il faut quand même le certifier maintenant. Certifié nul. Le Big Show, il a fait ce qu'il a pu. Bon, il était handicapé avec son histoire de main cassée. Là, il vient catcher avec une main cassée. C'est quand même n'importe quoi. Puis le passage avec Enzo. Je pense que c'était censé humilier Enzo, mais c'était même pas pire que ça. Voilà, il passe la cage, il se fait encore une fois défoncer. Ça à peu près aussi pire que ce qu'on pensait que ce serait. Donc. Voilà, je pense qu'il faut a fait le tour là.
Ouais, écoute, je ne rajouterai absolument rien, ça n'en mérite pas. Écoute, on va passer à un autre match qui devrait nous enthousiasmer un peu plus. Non, je déconne, une fois de plus, ils ont décidé d'enchaîner tous les matchs de merde pendant la grosse moitié du premier show, du show, pardon.
C'était long, hein.
C'était long, c'était long. En fait, les matchs étaient courts, particulièrement celui-ci, mais c'était long. Puisque Randy Orton affronte Rusev dans une rivalité née de pas grand-chose. Alors, Rusev
Malentendu.
attaque un malentendu. Rusev attaque par surprise Orton. La cloche sonne. Orton esquive Rusev. RKO out of nowhere. Victoire de Orton.
Ouais. J'espère qu'ils vont donner quelque chose à Rousseff derrière, parce que là, il s'est
Ah
sacrifié
bah,
quand même.
une Minerve.
Ouais, une mine.
Parce que
En plus, il était affûté comme jamais, Rousseff.
là...
Je pense qu'il met pas mal de temps à la muscu tout le temps, il n'est pas à la télé. Non, bah voilà, Randy Orton. Hein. Je dis toujours, quand ça va pas, c'est Randy Orton. Après, c'était bien fait, c'était un squash qui était bien fait, le RKO était bien placé. C'était propre, c'est dommage que ça tombe sur Rousseff. Mais voilà, il fallait redorer le blason de Randy Orton pour les mois qui viennent, parce que ça reste une des dernières grosses superstars du roster.
Ouais, ça, John Cena, Randy Orton,
Voilà,
voilà,
on sauve les patrons.
qui ont enterré les petits jeunes. Écoute, en tout cas, ça aura eu le mérite, c'était un arrachage dedans, quoi. Ça durait ouais. 2 secondes et c'est fait maintenant. Okay. De toute façon, c'était inévitable.
Mais je pense qu'ils vont lui offrir quelque chose derrière à Rousseff. Parce que je pense pas qu'il soit aussi mal vu que ça. Et
J'espère, parce qu'une fois de plus.
Ça semble donnant. Là.
Ouais, c'est ça. C'était Orton l'année dernière. Bah là, cette fois-ci, ce sera Rousseff. Hein, même si, évidemment, c'est pas le même historique. Mais j'ai l'impression qu'à chaque SummerSlam, un mec doit. Doit bouffer ses dents au profit d'un gros, d'un vétéran ou et aujourd'hui c'est Rousseff, l'année prochaine qui ce sera, les paris sont ouverts.
Jason Jordan.
Bon, écoute, on retourne à la division féminine si tu veux bien, dans un match qui paraissait en tout cas plus emballant que celui de SmackDown, puisqu'il oppose Alexa Bliss, la championne, à Sasha Banks, qui a réussi par miracle à se qualifier en prenant la place de Bayley, qu'on aura aperçu pendant quelques secondes dans les backstage.
Il s'est fait huer, hein, comme une merde. Hein.
Horrible. J'avais pas conscience de... Parce que, enfin... Je veux dire, parce qu'on parle bien de Bayley, hein, évidemment, qui s'est fait huer. À la limite, quand Bayley se fait huer parce que, genre, elle fait des promos de merde. Ok, mais là, elle est apparue 3 secondes dans une séquence backstage où elle a juste fait un petit sourire à Sasha Banks et elle s'est pris une bronca et des huées. Enfin, genre, je sais même pas si c'est pas elle qui s'est pris la plus grosse huée parce que ça venait vraiment du cœur, toi. Les gens, ils sont pas, ah, c'est Bayley, qu'est-ce que. Non! Ils l'ont vu, paf, c'est épidermique. C'est épidermique. C'est...
Pire que Ilias qui a chanté 2 chansons dans le kick-off.
J'en ai pas parlé, mais oui, voilà. Petite casse d'élite.
Voilà, hop, je le place ici.
Oh, oui, très bien, très bien. Sasha Banks aussi a recueilli quelques petites huées de la foule, mais bon, c'est New York, elle vient de Boston. Voilà, hein, c'est pas, ils sont pas dehors de sainteté. Et puis, bon, voilà, hein, en face, il y a Alexa Bliss. Voilà, les deux ont... la cause du public est autant acquise à l'une qu'à l'autre. Du coup, c'est un match-up assez intéressant. Les chants de la foule résonnent autant pour Alexa que pour Sasha. Les patates pleuvent rapidement, hein, puisqu'elles sont vraiment décidées à en découdre les deux. Alexa Bliss domine le début du match, elle, usant de vile tactique, hein, écrasant le front immense de son adversaire depuis le turnbuckle. Elles se sont bien éclatées la tronche. Elle a abîmé à plusieurs reprises, hein, la chevelure prune de Sasha Banks. Elle l'étrangle à plusieurs reprises sur les corps depuis le turnbuckle, etc. Je pense qu'elle a essayé quand même de l'étrangler vraiment, Sasha Banks, avec sa bise, parce que vraiment, les trois quarts de son moveset, c'était je t'étrangle, quoi. Mais bon, c'est plutôt.
Enfin, ça peut marcher.
Ça peut marcher. Le calvaire semble interminable pour le challenger qui trouve malgré tout l'énergie nécessaire pour éjecter son bourreau du turnbuckle et l'y empaler quelques minutes plus tard. Backstabber, suivi d'un backstatement, mais la championne file sous les cordes. Pire, hein, cette dernière piège Sasha Banks en tirant le tapis du ring. Elle le fait souvent maintenant, au moment où Sasha Banks s'apprête à sauter du ring, tout simplement. Puis elle l'éjecte à nouveau un peu plus tard, ce qui fait qu'elle se blesse au bras, Sasha Banks. Je ne sais pas si c'est une blessure qui existait déjà, mais en tout cas, elle n'était pas bien.
Non.
Non, d'accord, okay. C'est apparu comme ça, comme par magie. Voilà.
J'aime bien faire ça, les gens se blessent pendant le match.
C'est ça. Twisted Bliss, mais Sasha Banks kick out, hein, sur le finish d'Alexa, et elle place une seconde, puis une troisième fois le Banks Statement, au final pour la gagne. Alexa Bliss abandonne, mais c'est pas grave, c'est elle la méchante. Qu'as-tu pensé de ce match et de notre nouvelle championne, je crois, quatrième titre pour Sasha?
C'est
Banks,
ça, ouais. Ouais, ouais. Il me semble que c'est ce qu'elle a annoncé.
Qu'elle rejoint Charlotte, ou Charlotte a encore un coup d'avance?
Ouf, ça doit être un kiff-kiff.
Ça se tient, là, ça se tient.
Ça se tient. Ah bah, elles joueront pour qui a le plus de titres bientôt. J'espérerais bien, hein, revoir un petit Charlotte Sasha Banks. J'étais un peu déçu, moi, par le match. C'était pas mal, mais le finish était trop abrupt. On n'est pas à NXT, c'est mal booké quand même. Elles ont fait plutôt une bonne performance. Il n'y a pas eu trop de botch, mais c'était pas assez grand pour un pay-per-view, pas assez. Ça allait pas assez loin, moi je trouve. Et il y avait ce satané arbitre que je déteste qui m'a encore une fois pourri le match, à intervenir là, à dire non, il faut pas se battre quand vous êtes dans le coin du ring, qui essaie de les séparer. Il me saoule celui-là toujours. Et donc voilà, plutôt déçu. Je dirais pas que c'était mauvais, mais je m'attendais quand même à mieux. Voilà, ils nous ont habitués à mieux, les filles, comme ça, sur les gros pay-per-view. Donc Bon, Alexa Bliss, elle est un petit peu en dessous des autres, c'est sûr, au niveau technique, mais elle ouais, sait mais comment.
Ouais, elle s'est trouvé un style.
Voilà, l'étranglement. Un style, normalement, voilà, l'étranglement. D'habitude, elle fait quand même plus de taunt avec le public. Là, il y a un peu plus de jeu, là, il y en avait moins. Et je trouve que c'est quand même pas très intelligemment booké comparé à ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à sortir, par exemple, à NXT, ou que ce qu'ils arrivent à sortir quand ils font, je sais pas, un bon main event ou un truc comme ça. Là, c'était. C'est vraiment le booking du match en lui-même qui pêche, je trouve.
Ouais, effectivement, c'était plutôt bien exécuté. Maintenant, c'est vrai que ça manquait un peu de saveur. C'est vrai que tu as raison, Alexa Bliss, c'était moins illesque qu'elle n'aurait pu l'air, on va dire, l'être. Un peu moins de taunt. Bon, voilà, pas beaucoup de temps non plus pour te reconstruire un match plein. Puis un challenger, pas vraiment challenger, enfin... C'est assez compliqué, je pense, effectivement, à booker ce match de façon un peu legit. Enfin, maintenant, tout l'intérêt réside vraiment dans la gestion de la relation entre Sasha Banks et Bayley. Hein, de toute façon, voilà, c'est clairement. Enfin, clairement. En tout cas, c'est une des. Oui, on se dirige vers ça. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer?
Il faut qu'elle revienne, Bayley, entre-temps, là, maintenant. Ouais. Mais je pense qu'il aurait été peut-être plus judicieux de faire gagner Alexa Bliss avec une bonne grosse tricherie des familles et ça aurait été donné quelque chose d'un peu plus relevant, comme on dit, un truc dont on se serait souvenu un peu plus que cette victoire un peu terne là de.
Ah, c'est ce que nous avions voté, Team SmackDown, pour 0 points du coup, mais vous deux, vous aviez évoqué Sasha Banks quand même. Hein.
Ah, bah tu vois.
Il me semble. Moi, j'en ferai le décompte si t'es plus sûr, mais c'est peut-être un point.
Moi je vote toujours pour Sasha Banks.
Oh là, quel malin.
À l'antenne.
Bon, allez, enchaînons avec une autre affiche, une rivalité ancestrale, une rivalité qui dure depuis 3 semaines, puisqu'il s'agit de Finn Balor opposé à Bray Wyatt. Duel démoniaque au sommet, mais tout d'abord un duel d'entrée, hein, puisque. Finn Balor a samplé Bray Wyatt.
Ah ouais, c'était nul ça.
Avec le petit chant, he got the whole world in his hands.
Oh là là.
Bon, pourquoi pas, un mind game un peu cheap, hein. Pourquoi pas, mais bon, c'était pas forcément. C'est peut-être un peu too much. Mais bon, évidemment, deux des plus grosses entrées hein, du roster. Le public est à fond derrière Finn Balor. Le ring est entouré de brouillard. Hein, même pendant le match, ça a continué. C'était plutôt sympa. Même, voilà, ça contribue un petit peu à un début de match plutôt original. Et c'est Balor qui prend le contrôle en courant dans tous les sens, tout simplement. Il prend le gros Bray de vitesse, hein, il balance tous ses coups de pied sautés, là, ses coups de poing sautés, ses pommes de terre sautées, là. Tout est sauté avec Finn Balor.
Ouais, oui. C'est sautillant.
Il peut pas rester les deux pieds sur terre, hein. Il est intenable, le bonhomme. Bray Wyatt commence à comprendre, hein. Il place une souplesse depuis le bord du ring vers l'extérieur, hein, un joli spot. Le rythme ralentit hein, à mesure que Bray Wyatt prend le contrôle du match et pilonne son adversaire, mais Finn reprend les choses en main. Il punit Bray à l'extérieur du ring, en faisant stomp sur la nuque, coup de pied sauté évidemment, dans les barricades d'insécurité, comme disent nos commentateurs français préférés.
C'est
bien Juste et Chéreau et non pas...
pas Jean Brassard.
Jean Brassard.
Et Raymond Rougeau.
Raymond Rougeau. Bray Wyatt semble effrayé hein, par la furie de son adversaire. Hein. Le côté démoniaque de Finn Balor semble prendre auprès de Bray Wyatt qui résiste à tous ses assauts. Il reprend la confiance. Il pense être entré dans l'esprit de Finn Balor. Mais quand il passe en mode araignée, le démon se relève à la surprise générale. Il est affamé. Moment d'étonnement fatal puisque rapidement, après quelques échanges, s'achève sur le coup de gras, dans le gras de Bray Wyatt, justement. Victoire de Finn Balor sur le mangeur de monde.
Ouais. Un match à l'image de la rivalité. Hein. C'était pas phénoménal. Ce match de gala pour présenter un peu Finn Balor de nouveau auprès du grand public. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de match en pay-per-view, je crois, de toute façon. L'arrivée du démon, quasiment invincible du coup. Le pauvre Evoyat, il n'a pas fait un pli. Ouais. Mais en même temps, ils nous ont rien sorti de vraiment spécial. Donc voilà, pas pire, hein, comme on dit. Rien d'honteux, mais rien de transcendant. Pour un SummerSlam, c'est léger. Voilà, c'est pas un match qu'on mettra dans la liste des matchs de l'année. Hein.
C'est, en fait, le truc, je vois même pas de quoi parler en fait de ce match. Il n'y a pas un point, toi, ou quelque chose en particulier dans le match qu'on pourrait vraiment retenir, toi, à part effectivement que Finn Balor n'a pas peur de l'araignée de Bray Wyatt. Qui a peur de l'araignée de Bray Wyatt? Voilà, mais.
Il semble que Cena, il avait bien peur, je me souviens.
Cena, oui, il a souvent peur. Cena est un cartoon, hein, donc quand il a peur, il a vraiment peur, et quand il a pas peur.
Il a les yeux qui sortaient.
Sortaient de ses orbites, comme le loup dans le cartoon quand il voit la belle pin-up, là. Bon, allez, écoute, franchement, il n'y a pas grand chose à débattre. Voilà, est-ce que le programme va continuer pour les deux?
On n'espère pas.
Non, clairement. En plus, Bray Wyatt n'a pas vraiment perdu non plus. Donc, les deux se quittent en bons termes, finalement.
Voilà.
Voilà.
Quittons-nous, bons amis.
C'est ça.
Voilà.
Et ben, justement, en parlant d'amis, des vieux amis qui se sont retrouvés.
Ah.
Dean Ambrose et Seth Rollins. Le mini shield, comme on aime les appeler, qui affrontait les amis, pareil, hein, d'autres amis qui eux se sont une amitié forgée dans la bagarre, dans les coups de poing, dans les bagarres dans les bars, puisque Sheamus et Cesaro, champions, donc vont défendre leur titre ce soir face à Ambrose et Rollins. Justement, le duo retrouvé qui prend les affaires en main, ils retrouvent rapidement leur teamwork fusionnel d'antan. Sous les vivas de la foule, entièrement acquis à la cause du duo renouvelé. Cesaro et Sheamus se concertent un peu plus tard à l'extérieur. Ils sont là, ça marche pas, ils nous prennent. Là. On les voit en train de... Cesaro fait souvent ça, il adore faire ça, hein, peu importe avec qui il est. Oui, il prend son coéquipier à partir, en l'occurrence Sheamus, puis il commence derrière lui. Je suis sûr, il lui raconte des pires conneries à l'oreille, toi. Genre, tu connais l'histoire du... Vas-y, fais-le, mec. Fais-le, on est en train de faire un truc. Il dit camion. J'imagine trop faire ça. Cesaro qui aime beaucoup s'amuser, on le verra un peu plus tard, notamment avec le public. Bon, les deux méchants, hein, voilà, remontent sur le ring. Ils éliminent Ambrose puisqu'ils avaient une stratégie, hein, éliminer Ambrose de l'équation. Ambrose qui va du coup se retrouver sonné pendant un long moment à l'extérieur du ring, et du coup, il contre le suicide dive de Rollins et le balance comme une grosse merde. Et c'est à ce moment-là que le sale quart d'heure commence pour Seth Rollins, puisque Dean Ambrose gît au sol. Cesaro a disparu dans la foule alors que Sheamus règle son affaire à Seth Rollins dans les cordes. Cesaro ne revient pas les mains vides, il revient avec un ballon de plage, le fameux beach ball que le public de Smart aime s'envoyer dans les gradins, dans les grands événements. Et une beach ball qui est littéralement éventrée par le Suisse, ça met évidemment la foule en feu, c'est le délire, c'est le gros bordel au retour de Dean Ambrose qui plonge sur les autres à l'extérieur avant de prendre le hot tag, la synergie revient, double suicide dive du shield, double powerbomb un peu plus tard, évidemment la foule ne réclamait, n'attendait que ça, Ambrose parvient même à placer son rebond dans les cordes sans que ça me fasse hurler. Tellement j'étais chaud, je me suis pas dit oh putain je déteste ce truc, c'était plutôt bien foutu. Les vilains.
Ouais, avec ce gros coup de pied là de Cesaro pour c'est le propulser ça. Là, ça,
exactement.
Ça bien, ça.
C'est merci Cesaro. Les vilains reprennent le dessus, grosse soumission de Cesaro suivi d'un Doomsday Device je crois un peu plus tard. Mais Rollins veille au grain, il place une Hurricane Rana sur Cesaro. Qui était collé au turnbuckle alors que Sheamus était aux prises avec Dean Ambrose. Cesaro est expulsé de l'Hurricane Rana et envoyé directement dans Sheamus qui s'écroule avec Dean Ambrose. Alors ensuite, c'est festival de coups de pied dans la tronche de Seth Rollins sur Sheamus qui va tous bouffer. Son finish, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, c'est une prise de l'ami Omega, c'est bien ça, non?
Son coup de genou là, le V-Trigger, je crois que c'est appelé ça le Kingslayer.
Kingslayer, ah bah oui, autant qu'à faire, le Kingslayer. suivi d'un Dirty Deeds. Sheamus ne pourrait évidemment pas se relever de ce double finisher, hein, digne de grandes heures de Street Marvel versus Capcom, là. Victoire du Mini Shield dans une ambiance complètement folle. Est-ce que tu étais aussi excité que le public?
Encore complètement. Complètement, pour moi c'est là que c'est le...
J'étais
c'est là
très
que le...
excité.
C'était très excité, j'étais à fond. C'était là que le pour moi le pay-per-view a démarré en fait. Hein.
Ouais, ça a basculé.
Voilà, ils ont lancé les trucs, on attendait beaucoup de ce match. Enfin moi personnellement, parce qu'on avait quand même 4 des meilleurs workers, hein, des meilleurs top stars de WWE au final, hein, parce que ce soit Ambrose, que ce soit Rollins qui nous a fait tant rêver à l'époque quand il était champion, et c'était un champion magnifique. Cesaro, qui est toujours quand même un des piliers de la WWE, c'est rare qu'il nous sorte des mauvais matchs, tout le monde aime Cesaro. Et Sheamus, qui est toujours depuis 2 ans, qui a...
Ah, il s'est retrouvé. Il s'est
ouais,
retrouvé.
Voilà, avec Cesaro, là, il sort tout le temps de grands jeux. Donc moi, j'attendais beaucoup. Le match démarrait très vite, très très bien, mais il y avait ce public qu'on entendait qui n'était pas dans le ton, qui gueulait d'un côté quand c'était pas les bons moments.
Ah
donc
ouais, tu l'avais remarqué.
Ouais, tu l'entendais et ça commençait à m'énerver. Je me suis dit, à tous les coups, ils ont lâché. Ça t'a des balles de plage. Et effectivement. Et heureusement, Cesaro, le génie, qui va chercher la balle et qui la déchire. Voilà, et après ça, et ben, ils ont pu continuer leur match qui était magnifique, avec le public qui suivait le match, c'est quand même mieux. Parce que je veux bien qu'on sorte la balle et qu'on fasse les cons, mais pas pendant un match qui est de cette qualité-là.
Non.
Tu le faisais pendant Big Cass, Big Show, là, ça avait un sens, mais pas pendant ce match-là. Parce que moi, en tant que spectateur, ça me pourrissait le spectacle. Hein. Et, enfin, en tant que téléspectateur, plutôt. Et puis voilà, sinon on a eu un putain de match avec vraiment des trucs travaillés, des prises en équipe là comme on aime voir, des trucs novateurs. Dean Ambrose des grands soirs qui s'est levé le cul, Rollins aussi qui nous fait un Springboard Hurricane Rana là qui était super. Voilà, on se souvient avec ça pourquoi ces mecs là c'était les top stars il y a pas si longtemps. Et ben on espère qu'ils vont tourner autour du titre tag team pendant un moment pour nous sortir des matchs comme ça. Des rivalités qui sont peut-être un peu mieux foutues que ce qu'on a eu dans les weekly, mais là on a des mecs qui sont solides et qui nous sortent du bonbon spectacle. Hein.
Ouais, non, bah écoute, je me joins évidemment à tes louanges. C'était juste un match de feu, il y avait vraiment, comme tu l'as si bien décrit, tout était réuni là pour offrir un pur moment. D'allégresse au public.
Voilà.
Non, mais vraiment, enfin, et c'est moi ce qui m'a fait plaisir, c'est. En plus, c'était, je crois, pendant le pré-show, il y a eu une interview de Dean Ambrose et de Roman Reigns par la charmante Charlie Caruso, comme tu la nommes si bien. Ils avaient le sourire aux lèvres. Les mecs, tu sentais que c'était limite un soulagement d'être à nouveau ensemble à l'écran, toi, et de pouvoir l'être à tout moment. Et je pense vraiment que ça leur fait un bien fou et ça va faire du bien aux deux parce que Dean Ambrose, c'est probablement des trois qui, enfin, même si Seth Rollins, c'était la galère aussi, mais pour d'autres raisons, Dean Ambrose, il a vraiment eu du mal. Ça lui a fait un coup sur la tronche de se retrouver tout seul, je pense. En tout cas, il a jamais vraiment réussi à. Ouais, il a végété, c'était pas terrible quoi. Et Seth Rollins, en fait,
bah, ils ont une dernière année qui était catastrophique,
ouais,
comme l'autre.
Ça.
Et ça fait plaisir de les voir. Ambrose, il a été jobé pour le Baron. Rollins, qui s'est retrouvé, il a perdu contre Bray Wyatt, Rollins, quand même. Voilà, ça fait. Je pense qu'effectivement, pour eux, ça doit leur faire plaisir d'être enfin de retour, déjà avec des ceintures, dans des programmes. Qui sont un peu centraux, hein, et plutôt côté main event plutôt que côté upper mid card. Et voilà, et en face, c'est Cesaro qui, de toute façon, lui aussi, je pense que ça lui fait plaisir aussi de se retrouver aussi haut dans la carte, d'avoir du temps pour s'exprimer, montrer ce qu'il est capable de faire. Et ça se voit qu'il n'était pas content que les gens ne regardent pas le match. Et s'il a été chercher la balle aussi, ce n'est pas juste. Pour faire le malin, c'est que ça devait lui casser les couilles quand même assez
ça,
sévère.
Je pense que ça, c'est quelque chose typiquement le genre de truc qui
Ça, ils aiment pas les catcheurs.
Ouais, mais voilà, ça, backstage a fait plaisir à beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est une bonne leçon aussi donnée, comme tu dis, au public, qui, franchement, parfois, effectivement, enfin, ils se plantent, quoi. C'est pas parce qu'on vous a pas laissé rentrer alors que vous avez payé vos places qu'il faut manifester votre colère en lançant des ballons de plage. Bon. on enchaîne avec. Oh, bon, ouais, c'est vrai, t'as raison, hein. Ils ont gardé le meilleur vraiment pour la fin. D'ailleurs, on se demandait ce qui se passait parce qu'en fait, ils ont tellement lâché les cartouches de merde qu'on s'est dit à ce moment-là, on va plus respirer pendant 2 heures. Kevin Owens qui affronte ce soir AJ Styles pour tenter de récupérer son titre, devenir le visage de l'Amérique, et ne seront pas seuls. Enfin, t'es jamais seul parce qu'il y a toujours un arbitre quand même, mais cette fois-ci c'est pas n'importe lequel, c'est Shane McMahon qui évidemment pouvait pas venir habillé en arbitre simplement. Il a fait faire customiser un petit veston d'arbitre sur mesure. Les deux ennemis hein, qui n'attendent pas pour se mettre sur la gueule, eux aussi ils en ont plein, enfin ils veulent s'en mettre plein la tronche. La cloche n'a pas encore sonné d'ailleurs, ça oblige Shane à prendre tout de suite ses responsabilités, hein, très bien, sans tarder. KO neutralise, le match est lancé, KO neutralise méthodiquement mais avec rage, hein, le pauvre AJ Styles qui se contente de répondre temporairement mais avec quand même beaucoup de panache aux assauts répétés du Canadien, hein. Il y a vraiment une histoire qui est racontée à ce moment-là où Kevin Owens vraiment démonte AJ, mais à chaque fois AJ trouve quand même malgré tout le petit contre fulgurant qui lui permet de ne pas sombrer sous les assauts du Canadien. Mais Kevin Owens s'est un peu trop occupé à tchatcher avec l'arbitre, hein, un arbitre d'ailleurs qui a vécu le match à 150%, hein, puisque t'avais l'impression que Shane McMahon, il avait enfilé, c'est son casque de réalité virtuelle, et qu'il était en train de jouer un jeu de boxe, c'est une ROM de Super Punch-Out, parce que les arbitres, ils miment toujours un peu ce que font les catcheurs, en tout cas, quoi, ils se mettent des gros coups, toi, ils rentrent la tête dans les épaules, voilà, pour amplifier le truc. Mais alors lui, il donnait les coups de poing, il en faisait des tonnes, il levait les bras et tout, il y avait vraiment des séquences. Je t'avoue que nous, on a beaucoup rigolé pendant ce match. Il a peut-être un peu trop volé la vedette aux yeux de certains, mais bon, au moins, il a fait le boulot qu'on lui avait visiblement demandé. Et il avait fort à faire d'ailleurs, puisque entre les kicks survoltés, les cabrioles, hein, les contre à gogo, ça allait dans tous les sens. AJ en grimpe sur le turnbuckle, mais Kevin Owens utilise Shane pour le déséquilibrer. Allez, on commence un petit peu à impliquer l'arbitre. Shane qui se retrouve ensuite sur la trajectoire du 450 splash là de AJ Styles. Il est un peu sonné. Shane qui compte ensuite trop lentement le tombé suivant, le pop-up powerbomb qu'a placé Kevin Owens. Shane donc énerve Kevin Owens qui lui balance un magnifique. Il lui dit, Kevin Owens, parce qu'il est pas content, parce que Shane a mis trop de temps à venir faire le décompte. Il lui dit, ah bah tu te relèves après des chutes là de 10 mètres de cage, mais tu galères à venir faire un tombé de 3 là, tu te foutrais pas un peu de ma gueule.
C'est juste.
C'était magnifique.
C'est tellement vrai.
La machine s'emballe, hein, quand Shane est éjecté à l'extérieur et ne voit pas l'abandon. Et oui, Kevin Owens abandonne sur une prise de soumission de AJ Styles. AJ Styles qui est pas content, il s'approche un peu trop près de Shane McMahon, hein, trop près de son nez. Et Shane le repousse, ce qui provoque du coup un roll-up qui, heureusement, n'ira pas à terme. Le cardio de Shane est mort à ce moment-là. Il n'en peut plus. Déjà, quand il fait une promo, il transpire. Alors, vous pouvez imaginer.
Je crois qu'il a transpiré plus que les deux autres réunis.
Bah, au bout de 5 rev bump, le mec, il était mort. Je pense que là, je ne sais pas comment il a réussi à aller jusqu'au bout du match, mais il l'a fait. Le cardio, par contre, de Kevin Owens, lui, il n'est pas mort. Il place une magnifique là, swinging fisherman suplex depuis le turnbuckle, hein, c'est assez magnifique quand il le sort, c'est toujours impressionnant. Et le cardio de AJ Styles non plus, hein, n'est pas terminé, puisqu'il place un premier Styles Clash qui ne n'ira pas au bout. Pop-up powerbomb ensuite de Kevin Owens près des cordes, 1, 2, 3, mais Shane annule aussitôt sa décision. Pourquoi ? Parce que justement le pied d'AJ était sur la corde. Eh oui, Kevin Owens est hors de lui. Il s'énerve. Les deux commencent à se battre. L'arbitre et Kevin Owens commencent à en venir aux mains. Mais c'est l'engueulade de trop, puisque AJ Styles en profite pour dérouler sa séquence finale. Phénoménal arm, Styles Clash, qui scelle le destin de Kevin Owens et de la ceinture. AJ Styles repartira avec la magnifique ceinture des États-Unis. Écoute, qu'as-tu pensé? Est-ce que tu as trouvé que l'équilibre entre l'implication de Shane McMahon et la qualité qu'on attend de Kevin Owens et AJ Styles, à qui on peut toujours un petit peu reprocher de ne pas avoir sorti le match 5 étoiles hein, qu'on attend d'eux, comment ils ont, est-ce qu'ils ont plutôt réussi à plutôt sortir de cette équation?
Alors moi je trouve qu'ils ont sorti un très bon match, ben quasiment moi celui que j'espérais voir. Alors c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas eu des gros bumps avec des tables et des choses comme ça, mais j'avais l'impression de vraiment de voir les deux se lâcher, mais avec Shane McMahon au milieu. Donc voilà, effectivement, il en a peut-être fait un peu trop, mais bon, c'est Shane McMahon en même temps.
Oui, c'était pas une surprise, hein.
C'était pas une surprise, voilà. Non, je trouvais que ce qu'ils ont fait dans le ring, c'était vraiment très très bien. Et puis voilà, on sait aussi là, on voit qu'ils accordent du crédit à ces deux catcheurs. Hein. Ils sont dans un programme avec Shane. Bon, c'est autour de la ceinture US, malheureusement. On aurait préféré que ce soit à la ceinture WWE. Mais c'est déjà bien de voir que ces deux-là sont vraiment bien placés dans la carte et qu'à mon avis, ils vont tenir des places importantes dans les mois qui viennent. Le spectacle était là. Le final était là, ça nous, on y a eu des Styles Clash aussi portés sur Kevin Owens, je trouve que c'était bien sympa. Et
C'est toujours sympa un petit stage clash. Allez.
C'est ça. Et au final, ça ouvre des portes pour la suite. Donc je suppose vers une rivalité entre Kevin Owens et Shane O'Mac pour sûrement un match entre les deux. Donc c'est plutôt efficace. Voilà, c'est vraiment un spectacle très sympa. Plutôt rien à redire là-dessus au final.
Ouais, effectivement. Moi, je t'avoue que mon premier visionnage, j'étais trop focalisé sur, enfin trop. J'étais vraiment, enfin, le point focal du match était un peu dilué du coup, toi. Je regardais autant Kevin Owens et AJ Styles que Shane, qui en faisait tellement des tonnes que c'était difficile de pas le regarder parce que, enfin. Après, ça m'amusait en fait, toi. Donc c'est pas, ça m'a pas gêné, mais du coup, bah, je reste un peu frustré malgré tout. Je trouve qu'ils s'en sont bien tirés. Ils ont réussi l'équation en fait, qui était, ok, on vous rajoute un. Qu'est-ce que ça fait quand on met pour les probablement deux des meilleurs catcheurs au monde dans un match et qu'on met Shane O'Mac dedans? Démerdez-vous
Et
avec ça.
voilà,
Vous avez 2 heures. Toi, c'est
démerdé.
ça. Donc,
Mais
et ils ont réussi cet
c'est
exercice. C'est
ouais.
réussi. Le match est réussi avec cette stipulation, toi. Il est réussi.
Bah, disons que c'est un truc WWE parce que
Ouais.
tu peux rager en te disant ouais, du coup, ce match ça tourne autour de l'arbitre, c'est quand même n'importe quoi. Mais quand tu connais la logique,
C'est
Shane
ça.
O'Mac, c'est une star.
Oui.
Pour la WWE,
Bien
c'est un
sûr.
draw. Quand tu es dans une histoire avec lui, c'est que tu es vraiment bien vu. Et puis, pour eux, c'est ce que les gens attendent de Shane McMahon. Donc,
Et c'est vrai, hein, parce qu'il jouit toujours d'une pop
exactement.
démesurée à mes yeux, mais écoute, voilà, ça marche. Donc, ils auraient tort de s'en priver. Et comme tu le dis, avoir Shane O'Mac comme arbitre dans ton match, ben, t'es rassuré, tu auras toujours ton chèque encore dans 6 mois. Donc,
C'est ça.
voilà. Et en plus, un programme Kevin Owens Shane O'Mac, bah, ça promet quoi, parce que
C'est ça.
Kevin Owens, il va juste le tuer,
Ouais,
au moins verbalement.
on sait qu'il assure quand c'est l'heure des grands rendez-vous. Maintenant, chez Noma, qu'on avait eu beaucoup peur quand il était revenu. On s'est dit, il va nous pourrir des affiches. Puis au final, ça a donné des matchs qui étaient super cool,
Ouais.
des moments qui étaient super sympas. Donc
Ouais, non, non, non,
voilà,
mais c'est
maintenant,
ça. Il délivre toujours au rendez-vous. Je dirais c'est plus le côté hebdo qui est un peu plus douloureux, mais bon, c'est pas toi qui est obligé de regarder SmackDown toutes les semaines.
c'est
Donc
vrai.
voilà. Écoute,
Juste le
j'ai
problème.
un peu arrêté de donner les pronos, mais tout le monde avait pronostiqué la victoire de AJ Styles. Donc bah, tout le monde il est heureux, tout le monde il est content, tout le monde il a les points. Bon, On va passer à peut-être la partie douloureuse de cette seconde moitié de show, puisqu'il s'agit de la défense du titre historique hein, de champion de la WWE, Jinder Mahal, qui affrontait Shinsuke Nakamura pour le titre. Évidemment, Nakamura, toujours sa, voilà, sa putain d'entrée avec son putain de violoniste qui a fait le déplacement ce soir. Donc, la foule embarque totalement. Après, est-ce que finalement il n'y a plus que ça pour Nakamura? On va pouvoir en reparler. Deux styles hein, qui s'affrontent ce soir. Hein. Nakamura qui va distribuer ses kicks, et ses taunts, hein, pendant que Jinder Mahal, lui, va jouer plutôt étranglement et mat wrestling et vraiment à l'ancienne, hein, old school. Avec aussi quand même des bonnes séquences assez brutales. Et il pointe du doigt, voilà. Il aime bien pointer du doigt Jinder Mahal. Évidemment, les Singh Brothers sont au rendez-vous. Et oui, parce que les GM n'ont visiblement pas retenu la leçon. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où fallait les mettre dans une. Faire enfin, sortir la Punjabi prison. Mais ils se sont dit, ah, nouvelle rivalité. Non, bah, les Singh Brothers vont se tenir à carreau. Et bien non, évidemment, ils vont intervenir. Plusieurs fois pendant le match, à chaque fois que Nakamura a besoin de perdre le contrôle du match, parce que c'est un peu lui qui a le, je sais pas si on peut dire le contrôle, mais clairement c'est lui qui délivre le côté impactant du match. Hein. Clairement, Jinder Mahal ne suit pas. Et c'est son personnage. Hein. Il bouffe, il en prend plein la gueule. Mais à chaque fois qu'on a besoin que la tendance s'inverse, et ben on fait un peu intervenir hein, les frangins pour. Au moins provoquer l'inattention de Nakamura. Bref, 10 minutes d'ennui plus tard, Nakamura place son adversaire dans son triangle, hein, sa prise de soumission là, sans succès. Puis il exécute Jinder Mahal d'un Kinshasa dans la nuque, ce qui attire à nouveau les affreux moustiques. Hein, ils sont de retour. Le japonais élimine les frangins, il s'en débarrasse. Hein, allant, voilà, comme il se doit.
Et voilà, Kinshasa par-ci, Kinshasa par-là.
Exactement. Là, tout d'un coup, il y a un petit goût de redite. Là, on se dit, oula, on a déjà vu ça quelque part il y a 3 mois. Et ben, écoute, ça se termine exactement comme il y a 3 mois, puisque Jinder Mahal en profite pour placer son calos de la façon la plus dégueu possible. En fait, c'était pas très bien porté. En plus, t'as Shinsuke Nakamura, qui est un personnage assez cartoon, hein, qui fait une espèce de tête genre, oh mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pris dans l'affreux colosse. 1, 2, 3, victoire de Jinder Mahal, qui repart donc champion de Brooklyn. Et Nakamura, qui n'aura donc première défaite de Nakamura, tout simplement, dans la carte principale pour le titre. Qu'est-ce qui se passe
à Jinder Mahal? Ok, ouais, non, bon, il n'y avait rien dans le match, hein, comme d'habitude. Nakamura, service minimum moins.
Oh ouais.
Et puis.
Ce qui en dit long, parce que le service minimum de Nakamura, déjà, c'est
ouais.
pas.
Ouais, non, rien d'enthousiasmant. Une défaite de Nakamura, alors que ça sert de l'envoyer jusqu'au titre pour le faire perdre la dernière marche. Hein. Encore une fois, on a subi tous ces matchs pour rien. Ça fonctionne juste pas, Nakamura, même s'il reste toujours très populaire, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il faut qu'il retourne au Japon, tout simplement. Il n'est pas du tout acclimaté à la WWE, ça fonctionne pas, ces matchs ils sont moches comme tout. La redite du final de Orton en plus, voilà, tout ça pour ça. C'est un peu comme le Big Cass Big Show, on s'attendait à pas grand chose, on n'a pas eu grand chose. Voilà, c'était primant, je trouve, ce combat de championnat là.
Ouais. Bah écoute, c'est assez. C'est terrible parce que. Et on l'a dit à plusieurs reprises, même pendant les pronos. D'ailleurs. Grâce à Giscal, on a eu un point sur ce match.
Il veut pas lâcher, hein. Il est à fond derrière Mahal.
Oui, mais il a raison parce qu'il est autant à fond que la WWE, donc ils sont allés chaud. Mais en fait, c'était le pire, c'est que c'était la chose à faire. Au-delà de vraiment le match qui était mauvais. Le match était mauvais, Nakamura de la merde. Enfin, moi c'est pareil. Enfin, moi j'en peux plus de Shinsuke Nakamura. C'est probablement, hein, si ce n'est le flop de l'année.
Je peux pas le sauver, je l'aime beaucoup, mais je peux pas le sauver.
Enfin, oui, c'est ça qui est terrible. On peut même pas dire que c'est un problème de storyline ou quoi. Enfin,
Non.
il y a ça, évidemment, mais clairement, dans le ring, c'est pas ça. Et comment dire, dès le début, en fait, c'était pas le mec qui a envoyé, ça, tu l'as dit, et c'est ça qui est terrible. Fallait envoyer quelqu'un d'autre. Fallait envoyer quelqu'un d'autre. Il fallait envoyer quelqu'un d'autre.
Fallait envoyer Sina, puis c'était réglé.
Ouais, mais à la limite, ouais. Envoyé
Mais bon,
Cena,
Sina,
mais il était
voilà,
légitime
Sina,
pour battre Mal. Visiblement, ils veulent conserver encore un petit peu Mal en tant que champion. Cena était tout à fait bien placé. C'était le client idéal pour se débarrasser de Jinder Mal pour le battre. Maintenant, qui derrière toi? Qui derrière pour aller chercher Jinder Mal? Il va falloir construire déjà, il va falloir quelqu'un d'autre. Il faut pas qu'ils nous remettent Nakamura, je sais pas, d'une façon ou d'une autre. Il y a aucune raison de faire ça, même s'il pourrait la trouver, mais voilà, parce que Jinder Mahal, en fait, ce personnage, le perso est super, il est super bien construit, indépendamment
Ah, ils ont tout mis dedans, hein.
de la qualité, enfin, du spectacle proposé dans le ring. C'est un excellent, ce que je disais, c'était devenu vraiment le vrai boss de fin de SmackDown, et donc il faut raconter une histoire pour aller le faire tomber, ce mec-là. Il faut pas juste envoyer un mec comme ça qui a gagné une qualif en battant en plus John Cena. Tu vois pas le gâchis quand même, le mec a battu John Cena en weekly et derrière il va se manger les dents sur Jinder Mahal à SummerSlam. Quel gâchis et quel.
Ouais.
Enfin, c'est terrible.
Non, c'est...
C'est terrible. Donc voilà, c'est très bien pour Jinder Mahal, mais pour tout le reste, c'est affreux quoi. C'est
Puis
affreux.
c'est pas fun à regarder, pour un
Non,
sou, c'est
ouais.
pas distrayant, hein, donc
Non,
à
non,
partir de
c'est.
là...
Non, non. C'est. Voilà. Donc finalement, on l'a eu, notre entracte qu'on a souvent avant le main event. Hein, malheureusement, c'est un entracte qui concernait le titre de champion de la WWE. Bon, écoute, je te propose. Après ça, finalement, mais c'était fabuleux parce que après ce match qui était frustrant et agaçant, on a juste eu un effet catharsis, comme ils disent, la délivrance totale avec le main event, hein, le Fatal 4-Way, qui opposait donc, attention, accrochez-vous, les Golgoths, hein, les gladiateurs de la WWE, Brock Lesnar, évidemment, le champion, Roman Reigns, Samoa Joe et Braun Strowman. Le chouchou de ces dames, nous y sommes enfin. Là, ça pue la transpiration, ça pue la violence, ça pue le bonhomme. C'est une tonne de muscles et sur le ring. La
testostérone à gogo.
testostérone, en veux-tu, en voilà. Alors, évidemment, les entrées sont fabuleuses. On a une petite promo de Poleman pour chauffer encore un peu plus le public, si c'était pas déjà suffisant. La cloche sonne et Samoa Joe fonce sur Brock Lesnar, Braun fonce sur Roman Reigns, hein, leurs deux anciennes rivalités, et la distribution de suplex commence avec Samoa Joe et Roman Reigns qui en font les frais. Braun Strowman était à l'extérieur, d'ailleurs il amène Brock à l'extérieur avec lui. Joe place Brock dans le coquina clutch et Roman Reigns éclate le tout d'un spear, je crois, à travers les barricades. Hein. Il amène tout ce beau monde là, à travers les barricades. Uranage de Joe sur Roman sur la table. Et c'est là où tout part en cacahuète puisque Braun Strowman prend Lesnar sur l'épaule et va le balancer à travers une première table, en fait en faisant une espèce de petite course là, un running power slam là, assez impressionnant. Puis une deuxième table, anéantissant totalement Brock Lesnar. Entre-temps, il balance une chaise dans la gueule de Roman Reigns et Samoa Joe qui essaient d'échanger leur téléphone ou des mots doux. Puis, ce n'est pas fini, puisque Braun Strowman achève le boulot en retournant parce qu'il reste une troisième table, hein, en retournant la troisième table sur Brock Lesnar qui gît, qui juste, il comprend pas ce qui lui arrive à ce moment-là. Donc il retourne la troisième table sur Brock Lesnar, qui du coup repart un peu plus tard en civière, hein, sur la civière, pardon, puisque le staff médical est venu le chercher. Brock Lesnar qui repart sur une civière dans un main event à SummerSlam. Ça nous change de main event de l'année dernière où il avait explosé la boîte crânienne de la vipère en rigolant.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait ri.
Ensuite, Braun Strowman qui est chaud. Alors, le public, à ce moment-là, enfin, c'est juste c'est la folie, hein. Braun Strowman, enfin, les gens sont dingues de ce qui est en train de se passer. Braun Strowman a une pop de dingue. Une pop même peut-être un peu trop forte. À ce moment-là, je sens mon pari filer entre mes doigts. Braun Strowman est trop fort. Il balance d'ailleurs un escalier dans la tronche de Joe et Reigns. Attention, là, si vous invitez Braun Strowman chez vous, et c'est pas forcément pour un déménagement, il va tout balancer, il va tout retourner, votre mobilier.
Envoyez-le chez vos ennemis.
Envoyez-le pour
votre voisin qui vous casse les couilles à faire du bruit. Envoyez-le Braun Strowman, il lui retourne la part.
C'est ça. Roman Reigns qui se défend, qui se rebiffe un petit peu. Il attaque Strowman justement avec les escaliers. Samoa Joe qui va vraiment jouer le rôle de l'opportuniste ce soir. Un rôle plutôt intelligent parce qu'il est quand même vraiment du monde pour faire les gros coups, quoi. Donc il fallait qu'il se trouve un rôle à jouer. Alors, sûrement un rôle de quatrième larron, hein, mais à chaque fois que un des gros Golgoth avait trop le contrôle, Samoa apparaissait pour faire un étranglement ou un petit roll-up ou
voilà
donc bataille avec Roman Reigns qui place donc son Samoan Drop, il tente de mettre le Superman Punch mais ça ne passe pas. Strowman empêche Samoa Joe justement de trop longtemps verrouiller son clutch sur Roman Reigns qui aura pas mal bouffé hein, aussi ce soir. Beaucoup de near fall hein, de un peu partout entre les trois hommes à ce moment-là. Strowman qui se mange les escaliers et à ce moment-là, c'est le retour de la bête de Brock Lesnar qui revient par la rampe. Il a fait tout le tour quand même. Il est hors de question qu'il reste à l'infirmerie. C'est pas Roman Reigns hein, qui va passer les trois quarts du Rumble à se faire soigner. Non, non, non. Il revient et à ce moment-là, Spear sur Strowman et il reprend le contrôle du match. Balance quelques souplesses dans tous les balance des souplesses à qui on veut, à qui en voilà. Et on a à ce moment-là une séquence assez impressionnante où Brock place son Kimura là sur Braun Strowman, cette fameuse prise hein, de soumission qui te pète le brin hein. Il a envoyé plus d'un gros catcheur à l'hôpital avec cette prise hein. HBK, Triple H et bien d'autres, mais à ce moment là on a peur pour Braun Strowman, mais c'est Roman Reigns qui place son Superman Punch à tout le monde, qui spire Lesnar. Joe est de retour, il place encore son clutch, et je pense qu'il a dû en placer une quinzaine ce soir. Strowman qui casse les clutches de Joe, c'est assez amusant cette dynamique quand même. J'aime beaucoup, ils avaient vraiment ce sentiment d'urgence, pas juste de destruction, mais vraiment un sentiment d'urgence à chaque instant, justement grâce à Samoa Joe. Je pense qu'il faut vraiment saluer sa prestation, il a apporté ce sentiment d'urgence qu'il aurait pas forcément eu si tu mettais juste des mecs qui détruisent les tables, quoi. On continue. Ça distribue des Superman Punch. Sur mon résumé, il y a des Superman Punch et des clutches à chaque ligne. On avance un petit peu quand même. Puisque Brock contre à ce moment-là, attends, Joe est de retour. Il place Reigns encore un clutch. Mais c'est quoi, j'ai l'impression de me répéter sur Brock Lesnar cette fois-ci. Mais Brock. Oui, il place un clutch sur Brock Lesnar, mais Brock contre en F5 pour le near fall, car Roman Reigns fait le save, comme on dit. Superman punch sur Brock Lesnar, encore un et un troisième, ça met Brock Lesnar totalement KO, mais Brock Lesnar contre le Spear en F5. 1, 2, 3, c'est bien Roman Reigns qui prend le tombé final. Braun Strowman aura un peu disparu les 5 dernières minutes de ce match. Faut dire qu'il aura beaucoup donné à ce moment-là. Et donc, le champion, Brock Lesnar, il ne part pas à l'UFC. Que choisir ? Non, 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 il reste à la WWE.
C'est ça.
Quel match ? Quel match ?
Qu'est-ce qu'il en a à foutre de la défense des consommateurs hein, c'est ce que c'est que cette histoire là. Ouais, non, quel main event là, quatre gros poids lourds de la WWE qui font le spectacle comme jamais. Il y a des spots, je me demande même comment ils les font, hein, l'envoi de marches en acier dans la tête ou le jet du. Quand ils jettent le fauteuil là, je vois pas. Comment ils font pour pas avoir mal, quoi, parce qu'ils se mangent le
Mais
fauteuil.
Il est très bien lancé, le fauteuil. J'ai vu des gifs animés du ralenti. Le fauteuil, vraiment, en fait, ne pivote pas vraiment sur lui-même. Il a très bien lancé. En fait, je pense qu'il peut vraiment. Finalement, je pense que si t'as un déménagement. Si t'as un déménagement à faire, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, parce que si le mec il arrive vraiment à bien lancer comme ça les fauteuils.
Droit comme ça.
Bien loin. Enfin bref.
Gagne du temps. Que du grand spectacle là. L'enchaînement des power slams sur Brock Lesnar sur la première table de commentateur, deuxième table. On lui remet une table sur la gueule, c'est quand même.
C'était fantastique. Ça, et c'est très tôt, hein. C'est vraiment très tôt dans le match. Hein.
Ouais.
Vraiment, clairement, on te dit, ça va barder quoi.
Et Braun Strowman, il a pris encore des points, plus que ce qui était possible. La foule était en feu, les chants Strowman, c'était parti. Il aura peut-être dû gagner le match. C'était peut-être le moment de le faire passer champion.
Les deux tiennent, hein, mon colonel.
Ouais, c'est ça. Brock Lesnar qui est toujours d'actualité, mais on voit qu'ils tiennent vraiment quelque chose avec Strowman, et puis il est là pour assurer quoi, le mec, parce que putain. L'enchaînement. En plus, les Power Slam, on voyait qu'il était là. Il disait, si je blesse Brock Lesnar, c'est foutu pour moi. Et il est placé méthodiquement, vraiment bien comme il fallait. Non, du grand, grand boulot. Roman Reigns qui prend le pin, ça fait plaisir à tout le monde. Joe qui était là, effectivement, juste comme il fallait pour relancer un petit peu la machine. Mais vraiment, du gros, gros spectacle comme on attendait. Ils nous ont sorti ce qu'on pouvait attendre de ces quatre-là. En détruisant l'arena, c'est le main event de l'apocalypse. On est bien content. On sort du coup plutôt avec une bonne impression de ce SummerSlam qui était très long, mais on n'aura pas attendu pour rien parce qu'on a vu quand même cette explosion finale.
Ouais, c'est ce que disait notamment l'ami Axel qui a chroniqué le pay-per-view hein, sur les cahiers du catch.com. Je vous invite à aller la lire, c'est un autre point de vue. Et c'est la première fois que les cahiers du catch publient une review de pay-per-view aussi vite. C'est vrai que voilà, on fallait prendre son mal en patience, mais on était récompensé pour ça. Après, c'est évidemment pas forcément ce qu'on attend d'un pay-per-view de SummerSlam, ça on en reparlera sur notre petit bilan final, qu'on va balancer nos top flops et notre note évidemment. Écoute, t'as tout dit. Je pense, beaucoup de choses intelligentes ont été faites. Ils ont utilisé ce match dantesque à très bon escient. Pour nous construire le rapporter cette fameuse couche supplémentaire. Qui avait guidé Giscard dans son prono à Brock Lesnar, hein, lui qui justement a acquis les matchs à plus de qui ne sont pas un contre un à porter préjudice hein, jusqu'à aujourd'hui. Là, il sort gagnant d'un Fatal 4-Way dantesque, donc il rajoute ça à son CV, donc il paraît encore plus fort qu'il ne l'était. Alors c'est très intelligent parce que justement il avait perdu son côté invincible grâce à l'ami Goldberg, hein, merci, hein, la pige de Goldberg a servi à ça au moins, à vraiment redonner un côté humain à Brock Lesnar, en tout cas pas imbattable, plus son match avec Samoa Joe, où pareil, on était vraiment pas grand chose. Là, ce match-là permet de lui remonter un petit cran, mais surtout, on lui a créé le rival parfait là, avec justement Braun Strowman, qui... S'il n'a pas gagné, je pense que c'était le bon call, comme on dit, c'était de pas faire gagner là tout de suite Braun Strowman pour que les gens aient envie que d'une chose, c'est de voir Braun Strowman mettre la pâtée à Brock Lesnar, ou en tout cas de voir le duel entre les deux lors d'un 1v1 dantesque qui va opposer la bête et le monstre aux prises. Moi, en tout cas, clairement, sur moi, ça a marché, même si j'avais... pronostiquer Braun Strowman évidemment également comme Raphaël ça a bien marché. Roman Reigns qui se prend le pin, Roman Reigns qui redescend un petit peu on va dire dans la carte gentiment on va dire et Samoa Joe qui je pense vraiment a joué le rôle le rôle peut-être le plus le moins
Plus ingrat.
plus ingrat exactement, merci, mais peut-être le plus important pour justement aider ce match à avoir être multidimensionnel. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas juste de la violence, mais il y avait vraiment ce sentiment d'urgence et de menace à tout instant avec ce type-là qui arrête pas de vouloir étrangler les gens. Je pense qu'il pourrait s'entendre avec Alexa Bliss, hein. Il pourrait faire un magnifique duo.
Des étrangleurs d'euros.
Les étrogleurs, pas les citer. Bref, et un magnifique, magnifique façon de terminer le show. Bon, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien. Il est temps de sanctionner ce pay-per-view d'une note, d'un top et d'un flop. Ringside, s'il te plaît.
Le flop, je vais le mettre à tout le début de carte jusqu'à l'arrivée de du tag team championship entre le Shield et Cesaro et Sheamus, parce que tout ce début là, c'était pas bien, c'était long, c'était voilà, même s'il y avait des matchs qui étaient pas honteux, c'était mal monté, tout ce show au niveau timing, c'était beaucoup trop long. Je pense que c'est quasiment impossible de le regarder d'entrée de jeu sans pas s'endormir.
Oui, donc clairement, on vous conseille, si vous
Voilà,
n'avez pas
regardez-le
encore
plusieurs
regardé, mais que
fois,
vous
vous mettez
écoutez la
jusqu'à la fin.
review, ce qui sera un peu bizarre, mais pourquoi pas. Oui, de zapper tout le début.
Voilà, et le top, bah, je vais le mettre au main event, qui était ce qu'on attendait. C'était super. Non, bah, le top, je vais le mettre à Cesaro qui a explosé la balle
Ah d'accord, non,
de
c'est
Bigolet. Voilà. C'était très bien le main event, ok, mais non, il faut mettre vraiment un point à Cesaro. Voilà, et du coup, sur la note.
pas facile du coup, hein.
Ouais, je
Parce
sais
que
pas.
est-ce que tu dis on fait un peu fi de justement de tout ça parce
Bah,
que
tu peux pas. Tu
mais tu
peux
peux pas
pas.
parce que sinon tu notes pas vraiment le pay-per-view quoi.
Ben, c'est ça. Alors, je vais mettre 2,25. Je voulais mettre 2, je vais
Ah ouais
mettre
quand même.
2,25. Je suis méchant, mais tu peux pas. À SummerSlam, ça peut pas être comme ça. Il faut que ce soit beaucoup plus péchu et qu'on nous remette des pyros. Hein? On a
Ah
eu un gros budget
putain.
fumigène, mais il nous faut des pyros, c'est pas possible
Ouais, là, j'avoue que là, c'est vrai qu'on avait dit qu'on prendrait ça en compte, hein,
ça.
dans la note.
C'est
Donc
vrai, mais
non.
les pyros n'étaient pas là.
Ouais,
Hein?
il y aura moins 0,25 points à chaque fois
C'est
pour
ça.
chaque pyro
C'est ça.
manquante.
On aurait eu 2,5, et ben voilà, c'est 2,25.
Très bien, bah
Allez.
écoute, sur le flop, moi je vais le donner au match Cena Baron, mais surtout je vais le donner à John Cena.
Bam, tiens, on voit que Giscard n'est pas là.
Ouais, j'en
Hop.
profite. Non, parce que je sais pas.
Arrogant.
Ouais, son arrogance était trop visible. Parce que il fallait qu'il gagne. Pour moi, clairement, enfin, c'est le. Mais il fallait qu'il gagne. Mais il n'a pas. Quand bien même le Baron a maîtrisé plus ou moins, on va dire, hein, le tout début du match, il l'a pris d'eau. Clairement, il le prenait pas au sérieux ce match. Et tu, ça, on ça transparaît. À ce moment-là, ça transparaît trop le côté je t'aime pas de toute façon. On sent qu'il aime pas le baron, je veux dire backstage ou qu'il y a du dédain quoi. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ce John Cena là et je pense que c'est pas, il doit pas avoir ce rôle là. C'est pas bien en tant que
Exactement. Il
vétéran
devra pas
de.
avoir ce rôle-là, John Cena. Il est pas là pour enterrer les gens, hein, alors qu'il
Bah
est,
non.
puisqu'il nous faut des nouvelles stars.
Donc qu'on lui dise bah écoute c'est à toi de gagner bah voilà enfin le mec même s'il peut dire non je veux perdre et ils diront peut-être ok toi mais voilà il y a la manière de le faire ok donc, après peut-être que le baron a vraiment fait une grosse grosse connerie mais je veux pas le savoir ça je m'en fous bref et mon top et bah écoute je le donne à Braun Strowman hein, tout simplement ce mec ça m'a juste libéré en fait ce qu'il a fait ça m'a genre on n'en pouvait plus quoi face à ça et c'est magnifique c'est vraiment c'est une réussite totale ce mec et bravo bravo là c'était vraiment le cumul de tout ce travail là qui paye et on voit que vraiment ils se donnent la peine ils peuvent construire de A à Z une superstar quoi là il sait toi on parlait souvent surtout toi je sais que ça te tient à cœur quoi, vraiment construire des vrais superstars qui sont de la trempe des Goldberg etc. Braun Strowman il a ce traitement là quoi enfin ça se passe
Ça se passe comme il faut. Et bizarrement, il n'est pas passé par la case NXT. Il y a peut-être des questions à se poser.
Ça, effectivement, c'est quelque chose peut-être... un autre sujet, un autre débat.
Un autre débat.
Et ma note, écoute, moi, je vais quand même mettre 3,25. C'est une bonne note. Peut-être une trop bonne note pour la qualité. Enfin, voilà. Mais... il y a quand même eu vraiment d'excellentes choses, et des très mauvaises choses, et ça m'a quand même bien diverti tout ça. Toutes ces tables renversées. Bon, et ben c'est l'heure de passer à l'autopromotion. Hein. Juste avant ça, les résultats des pronos.
Alors, dis-nous tout.
Écoute, j'ai refait le compte. On revalidera ça plus tard, mais écoute, j'en suis arrivé à 12 points pour la team rouge et 13 points pour la team bleue.
Saperdi popette.
Sapristi sacre bleu. Donc
Sapristi saucisse.
Nous gagnons avec un seul petit point d'avance. Ça ne s'est vraiment pas joué. Ça ne s'est joué à pas grand chose. Je referai les comptes à l'américaine.
Je vais demander un recompte.
Voilà. Parce que je l'ai fait un petit peu en direct, donc c'était pas voilà, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça malheureusement. Donc comme quoi, c'était un pay-per-view assez surprenant sur certains résultats, assez malheureux sur certains matchs et assez excitant sur d'autres. Donc voilà, c'est pas forcément digne d'un SummerSlam, mais voilà, tout n'était pas acheté, heureusement. À part les tables et les escaliers, tout n'était pas acheté. Et puis les Brock Lesnar aussi.
Il y a quelques moments qui vont rester dans l'histoire quand même.
Ouais, voilà. Bref, catch-up, vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube. Hein, la nouvelle adresse est youtube.com/catchupcdc. Encore plus simple à retenir pour laisser vos commentaires. Également disponible en audio sur iTunes et PodCloud hein, si vous voulez nous écouter dans le métro, dans la voiture, en faisant votre petit footing ou en prenant un bon bain chaud.
Un bon bain chaud. En faisant la cuisine.
En faisant la cuisine, pourquoi pas en regardant le pay-per-view, ça peut être assez étrange, mais ça pourquoi pas. Twitter, le Facebook, c'est également catchupcdc, lescahiersducatch.com et le forum pour discuter ensemble entre personnes de bonne composition.
Venez je sais pas ça.
Ah oui, et en plus il y a des feuds, hein, des rivalités entre les posters, hein, ringside. Voilà, c'est trouvé. Un nouvel ennemi, il y a une rivalité sur le forum des Kéliques.
On trouve des ennemis dans tous les forums.
Dans tous les forums, c'est magnifique. Section commentaires. Si vous voyez un commentaire de Ringside sur un site de catch, il y a des grandes chances que une rivalité naisse d'un de ces commentaires.
C'est ça.
N'hésitez pas à partager, à commenter, à noter, à nous mettre des pouces. Ça aide évidemment à la visibilité du podcast. On vous remercie évidemment d'être toujours présent. Merci à toi Ringside.
Je t'en prie, c'est toujours un plaisir
pour
te retrouver.
Tes analyses fines. Je vous donne rendez-vous, un programme chargé hein, très bientôt, peut-être demain même, pour l'analyse du Raw du lendemain, le fameux Raw du lendemain qui promet d'ores et déjà de nombreuses surprises, tout comme
le Raw Toto comme on dit.
Le rototo, le rototo.
Allez, je suis fatigué.
Et le SmackDown du surlendemain qui promet également son lot de surprises. Salut à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Oui. Bienvenue au club.
Bienvenue. Ce soir, c'est catch-up. C'est pour vous. On est bien calé.
C'est la libre antenne.
C'est la libre antenne, appelez-nous.
Toi aussi. Nous allons recevoir tout d'abord Hank, qui a un fidèle auditeur, qui a chopé les chlamydia dans un vestiaire. dans un entraînement de catch, il va nous parler de son expérience. Comment en parler à ses parents, auprès de ses amis.
C'est pas sale, ça arrive.
Ce n'est pas sale.